Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire tirée du livre du médecin légiste belge Philippe Boxo. Livre qui s'appelle « Les morts ont la parole » aux éditions Kentz, et dans lequel il raconte quelques-unes des affaires sur lesquelles il a planché. C'est avec lui que je la débrieferai dans un autre podcast. Il y a question d'un pendu, pas vraiment pendu. Histoire écrite avec Tuc Duhalde de Dieu le veut, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Philippe et Nathalie sont mariés depuis des années.
Oh ben c'est un joli couple. Hein. Ils ont l'air heureux, hein, ça. On peut pas dire.
Ils habitent une petite maison au bord d'un canal. Ambiance, l'homme du Picardie. Les vieux savent de quoi je parle. Les jeunes, renseignez-vous. Enfin, c'était un feuilleton culte de la fin des années 60. Un feuilleton dont le théâtre était les canons et les pénis. Et donc, Philippe et Nathalie habitent au bord du canal. Et Philippe adore voir passer les péniches. Oui. Oh, mais ça m'occupe. Hein. Et puis, ça m'apaise. Quand je regarde passer les péniches, je sais que je suis comme une vache qui voit passer les trains. Hein. Mais je m'en fiche. J'aime ça. Le reste du temps, Philippe travaille dans les transports en commun. Il s'occupe de gérer les plaintes. Toute la journée, il entend des gens qui se plaignent. Mon abonnement ne passe plus. Le conducteur du bus a été désagréable. Il a freiné trop brusquement. Il m'a fait tomber, etc., etc. Alors les péniches, ça le calme. Nathalie, elle, est comptable. Elle travaille pour une petite boîte qui a grandi trop vite, victime de son succès. Du coup, sa société l'autorise à faire du télétravail. Un jour, justement, elle rentre à la maison pour travailler chez elle. Elle s'est faite toute jolie, toute coquette. Et elle trouve Philippe déjà assis sur la terrasse à regarder les bateaux, un verre de vin rouge à la main, comme tous les jours. T'es déjà là ?
Ben oui, je travaille à la maison cet après-midi.
Et les heures passent. Depuis sa terrasse, Philippe voit ses voisins rentrer.
Ça va ? Ouais, ouais, tout va bien. Bonne soirée.
C'est la dernière fois que les voisins voient Philippe vivant. À présent, Philippe est mort. Ce matin, en se levant, Nathalie dit qu'elle l'a découvert pendu. Elle a appelé les secours, mais trop tard. Heureusement, ils n'ont touché à rien et ils l'ont laissé pendu. Combien de fois n'ai-je vu des scènes de crime complètement ravagées par les interventions des services de secours. Et le procureur m'appelle.
Allô, docteur ? Dites-moi, j'ai un pendu pour vous. Rien de spécial, vous savez, mais par acquis de conscience, j'aimerais que vous alliez voir.
J'arrive sur place. La vue sur le canal bordé d'arbres. Super. J'entre, je note que la maison est bien tenue et je descends à la cave où se trouve le corps de Philippe. Il est en pendaison qu'on appelle incomplète. Ça signifie qu'une partie de son corps touche encore le sol. Dans le cas de Philippe, ce sont les pieds qui touchent par terre et ses genoux sont fléchis. Ça vous paraît sans doute incompréhensible, hein ? Mais sachez que c'est le cas dans 90% des suicides par pendaison. Car il existe quand même un instinct de survie. Quand on se sent partir, on appuie sur ses jambes et on pense qu'on est sauvé. C'est vrai, mais pas tout à fait. Quand le cerveau est privé d'oxygène à cause de l'arrêt circulatoire provoqué par la pression de la corde à hauteur du cou, et donc des artères carotides qui amènent le sang depuis l'aorte vers le cerveau, les zones cérébrales s'arrêtent progressivement de fonctionner. La personne reste consciente, mais elle n'est plus capable de bouger. Le retour en arrière n'est plus possible. À l'Institut médico-légal, on a une cassette vidéo qui montre un homme qui se filme en train de se pendre. Une pendaison dite érotique. un fantasme qui associe plaisir sexuel et pendaison. Notre homme va un peu plus loin, puisqu'en plus, il porte un slip de femme dans lequel il a glissé des roses avec épines. Et donc, il se filme. Dans la caravane au fond du jardin où il se livrait à ce fantasme, on a trouvé de nombreuses cassettes vidéo qui le montrent dans des scènes similaires de pendaison érotique. Mais cette fois-ci, il s'est raté et il s'est pendu. Je vous explique comment il a fait. Il a placé sa corde entre le fauteuil sur lequel il était assis et la cloison de la caravane. Et il s'est progressivement laissé glisser pour augmenter la pression de la corde au niveau du cou. Et puis à un moment donné, on voit sur la cassette vidéo son regard qui panique. Il est allé trop loin. Il ne peut plus bouger. Et il meurt. On le voit sur la cassette. En pendaison incomplète. Et c'est donc ainsi que je découvre Philippe. Je commence par examiner son corps et puis je le déshabille. C'est toujours plus simple quand la personne est pendue plutôt que sur le sol. Je ne vois rien de suspect. On a une cyanose, on a des pétéchies, tous les signes de l'asphyxie. La cyanose, c'est une coloration bleutée du visage et du haut du thorax, témoin d'un excès de CO2 dans le sang, ce qui arrive quand on est privé d'oxygène. Et les pétéchies, ce sont de petits points rouges qui apparaissent essentiellement à hauteur des yeux et qui témoignent d'une augmentation de la pression veineuse qui fait péter toutes les petites veines. Les pétéchies apparaissent aussi chez des vivants, dans des efforts de vomissement par exemple, ou quand on pousse parce qu'on est constipé. Ça n'est donc pas un signe typique de la pendaison. Et puis je le dépends et je le couche au sol. C'est le moment périlleux. Il faut le retenir pour éviter une chute qui ferait apparaître d'autres lésions. Et c'est pas facile. Philippe est une pièce de 1,80 m pour 130 kg. Ensuite, je retire la corde et les vêtements du haut. Et c'est le moment le plus important de l'examen. Bien observer le sillon de pendaison. D'habitude, les sillons de pendaison sont obliques, vers le haut et vers l'arrière. Et ils sont alors incomplets. C'est-à-dire que la corde réalise ce qu'on appelle une anse de saut, qui fait pression sur les parties antérieures et latérales du cou, sans atteindre la région de la nuque. Et c'est le cas de Philippe. Et toutes ces lésions remonte au moment où il était encore vivant. Première conclusion donc, Philippe était vivant au moment de la pendaison. Mais il y a un problème. Le sillon est bien plus large que la corde sur le côté du cou. On dirait que la corde a glissé de bas en haut lors de la pendaison. J'ai jamais vu ça en pendaison incomplète quand les pieds touchent encore le sol. J'ai vu ça, mais en pendaison complète. Quand les pieds touchent pas le sol. Or lui, ses pieds touchaient le sol. Donc il y a un problème. Et là, je lève la tête. Et je remarque que la corde est passée par-dessus un tuyau de chauffage qui est recouvert de plâtre et d'amiante. Et que ce plâtre a disparu sur une bonne profondeur. Il n'a pas été comprimé, comme on le voit souvent, mais arraché. Il y a des traces de ce plâtre sur la corde. Ce qui semble indiquer que Philippe a été attaché par le cou à la corde, qui a ensuite été passé par-dessus le tuyau, et qu'ensuite on l'a hissé en pendaison incomplète. Autrement dit, il ne s'est pas pendu. On l'a pendu. Et c'est pour ça que le sillon est si large sur le côté du cou. C'est dû au frottement de la corde qui a glissé sur le cou au moment où on a hissé Philippe. Donc c'est un meurtre. Et vu les circonstances, il n'y a pas d'autre suspect que sa femme, Nathalie.
Je suis d'accord avec vous, docteur, mais vous observerez que sa femme pèse 60 kilos et que lui en pesait 110.
Eh bien, monsieur le procureur, c'est qu'on a dû l'aider, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En attendant l'arrivée des troupes, j'examine le nœud. Quand on coupe une corde pour dépendre une victime, on le fait toujours à distance du nœud pour pouvoir le conserver. Et ce nœud-là, je n'en ai jamais vu de pareil. Alors, avec la permission du juge, j'envoie la photo d'une par WhatsApp à un ami qui s'y connaît bien. Il fait du bateau.
Ah, mais c'est un nœud qui est utilisé en batellerie, ça. Sur les péniches, autrement dit.
Or, s'il regardait passer les péniches depuis sa terrasse, lui-même ne faisait pas de bateau. Qui, donc, a fait ce nœud ? Ensuite, je réalise l'autopsie. Ça se confirme, hein. Il était bien vivant quand il a été pendu. Et j'ajoute qu'il venait de manger. Le bol alimentaire est toujours dans l'estomac et assez peu digéré. Je pense que je pourrais vous donner tout le menu sans me tromper. Très intéressant, merci docteur. À part ça, est-ce qu'on a des signes de violence sur le corps ? Est-ce qu'on a essayé de l'assommer, par exemple ? Non, aucun signe de violence. Il n'a pas été assommé avant d'être pendu. En revanche, vu son poids, il est certain qu'il était inconscient au moment de la pendaison, puisqu'il a fallu le hisser. Et donc, il a probablement été endormi. Et donc, je prélève du sang, de l'urine, du foie, du rein et le contenu de l'estomac. Et j'envoie tout ça au laboratoire de toxicologie pour analyse. Et en attendant les résultats, en salle d'autopsie, j'analyse l'urine au moyen d'un système qu'on appelle immuno-enzymologique. Le résultat est sans appel. Il a consommé des benzodiazépines, hein. C'est un somnifère. Mais il faudra attendre le retour de toxicologie pour en connaître le dosage. Et le laboratoire confirme la présence dans l'estomac de Philippe de l'ormétazépam, à une dose très importante, largement suffisante pour endormir un homme de son poids. Et comme on en a trouvé dans l'estomac, eh bien on peut conclure que c'est lors du repas que Philippe a reçu ses benzodiazépines. Donc, on l'a endormi pendant le repas. On l'a transporté sans le blesser à la cave. Sa tête a été placée dans l'anse de seau d'une corde, laquelle a été passée au-dessus d'un tuyau de chauffage sur lequel elle a frotté quand on a hissé Philippe. L'enquête ne tarde pas à montrer que la femme de Philippe, Nathalie, avait un amant, un pénichier. C'est lui qui l'a aidé à se débarrasser de son mari. Elle mobile ? Classique, banal. Le cul et les écus, comme on dit chez nous. Autrement dit, le sexe et l'argent. Et on l'atte. Elle est pas mal, cette expression, non ? C'est quand même mieux que ton expression habituelle, l'argent et le cul. Là, c'est plus classieux, non ? Le cul et les écus. Je suis d'accord. L'expression me plaît bien. Je la resservirai. Pour terminer, vous noterez que sans l'intervention du docteur Boxeau, cet assassinat passait complètement à la trappe. J'ai tiré cette histoire du livre de Philippe Boxeau aux éditions Kens, « Les morts ont la parole ».
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.